Vous écoutez Radio Campus Paris, 24h sur 24, en DAB+, et sur radiocampusparis.org.
Allez, il est 20h01 et 3 secondes, vous écoutez, nous sommes déjà là-bas le lundi 5 mai 2025, il faut faire les choses dans l'ordre. Vous écoutez Radio Campus Paris en direct sur 93.9 FM et sur le web, dans le monde entier, sur radiocampusparis.org. Et 20h01 et 17 secondes, c'est l'heure de tout un plat.
Pour ce déjà 5e numéro de Tout un plat, le bimestriel de Radio Campus Paris consacré à la nourriture, à la cuisine et ceux et celles qui la font ou la pensent ou les deux. Tout un plat, c'est toutes les 8 semaines.
Soyons précis.
Un peu moins de 60 minutes pour parler de ce que l'on mange. C'est le magazine où la cuisine se met à table.
Et pour ce 5e numéro, nous sommes donc le 5 mai, c'est un hasard, je ne le crois pas. On va parler d'une incroyable histoire de la cuisine depuis les cavernes jusqu'à nos jours, mais aussi de ce que dit de nous notre passion pour les produits fermentés.
Pour l'entrée, c'est donc Benoît Sima qui devrait être avec nous à distance. Il est le co-auteur avec Stéphane Douet d'une incroyable histoire de la cuisine. Pour le plat de résistance, on retrouvera Anne-Sophie Moreau, journaliste et rédactrice en chef de Philomag. Elle viendra nous parler de fermentation aux éditions du Seuil. Et pour accompagner ce menu, quelques pauses musicales savamment préparées.
Alors bonsoir Benoît Sima. Et là c'est le moment où on ne sait pas si on va l'entendre. Bonsoir Benoît Sima.
Si, si, je suis là.
Ah, formidable. Vous êtes scénariste, vous êtes journaliste, vous êtes aussi l'auteur de l'incroyable histoire de la cuisine. C'est une nouvelle édition augmentée avec une histoire des restaurants de l'antiquité au fast-food, pardon. Qu'est-ce qui vous a donné à la base... Pardon, je vais quand même redonner le nom de votre co-auteur qui est Stéphane Douet, qui est le dessinateur, si je ne me trompe pas.
Oui, oui, le dessin, c'est important en bande dessinée.
Oui, c'est quand même mieux. Sinon, c'est une bande dessinée sans dessin, c'est un concept.
Voilà.
Qu'est-ce qui vous a donné à la base envie de faire ce récit sous forme justement de bande dessinée?
Eh bien écoutez, il y a beaucoup d'ouvrages savants sur la cuisine depuis les temps les plus anciens, depuis l'invention du livre, on peut le dire, depuis des siècles. Et il y a rarement eu le récit en images, et donc en bande dessinée, puisque c'est un média très moderne en fait, la bande dessinée, de cette passion qui est très ancienne. Et on avait envie de faire une sorte de grande épopée à travers le temps en images, qui utiliserait la bande dessinée comme média, on va dire, et puis qui se servirait de toutes les connaissances acquises historiques sur le sujet et qui ont été développés par tous les auteurs célèbres sur le sujet. Et donc moi, mon boulot, ça a été de synthétiser tout ça, de refiler le bébé à notre ami Stéphane qui a dessiné avec maestria cette bande dessinée.
Et justement, est-ce que vous pouvez nous dire, parce que nous sommes une radio, est-ce que vous pouvez nous caractériser un petit peu ces dessins et nous dire comment ces dessins peuvent porter le message de la bande dessinée?
Alors, quand vous lisez des auteurs qui nous racontent, parce que ça c'est un exemple extrême que j'ai découvert en faisant le livre, qui nous racontent comment les hommes des cavernes, comme on dit, les hommes préhistoriques, se nourrissaient et comment ils faisaient la cuisine, bon, ce sont des ouvrages extrêmement savants, des ouvrages d'archéologues, et c'est en fait assez difficile de s'imaginer, de se représenter la scène. Et en utilisant la bande dessinée, en dessinant les scènes racontées par ces archéologues, par ces savants, que moi je traduis en images pour Stéphane, on a une idée plus précise de la façon dont nos très lointains ancêtres faisaient la cuisine. Je vous donne juste un exemple très rapide. Vous connaissez les pirades, les restaurants un peu, plus très à la mode aujourd'hui, mais à l'époque, les pirades dans les restaurants savoyards.
Ouais, ouais. Bon, il y en avait même chez... On pouvait en avoir chez soi, même. Ah, on
toi,
a...
Personne n'en a aujourd'hui, c'est complètement passé de mode, mais...
Vous voulez dire que je suis ringard, merci.
Les archéologues ont retrouvé... 40 000 ou... Ah,
on coupé non, vous entend, il y a un petit problème. Allez-y. Donc il y a 40 000 ans, on l'a retrouvé. Allô, nous on vous entend très bien. On est avec Benoît Simard, scénariste de l'incroyable... Oui, on vous entend très bien, Benoît Simard. On était il y a 40 000 années avec une pierrade. Allô. Bon, visiblement, on va tenter de rappeler Benoît Sima et on va faire ce qui fait tout le bonheur de faire de la radio. On va meubler, Sibylle, cette merveilleuse bande dessinée consacrée.
Allô, pardon, oui. Les jeux du direct.
Mais voilà,
désolé, ça a coupé.
Mais non, c'est pas grave, on était il y a 40 000 d'années et
on essayait... On allait faire une tirade.
Et on sait.
Donc, je vois que l'essentiel du message est passé, tant mieux. Donc en fait, nos amis les savants ont retrouvé, c'est très étonnant, c'est ce type de préparation. Et donc, le dessiner sous forme de, enfin, le représenter sous forme de bande dessinée, c'est très parlant. Alors, c'est la même chose pour des espèces de fours de cuisson à vapeur. Donc, un four de cuisson à vapeur, c'est une sorte de mini tipi, comme les tipis des Indiens, où on met une pierre très chaude sur laquelle on projette de l'eau, ce qui forme une fumée.
Comme dans un sauna.
Et on peut. Voilà, on fait une sorte de sauna pour un bout de viande et qui donc est cuit de cette façon. Alors c'est très rigolo tout ça, mais c'était vraiment la façon dont, assez ingénieuse, dont nos très lointains ancêtres se servaient pour faire les débuts de la cuisine. Et grâce à la bande dessinée, on peut vraiment visualiser du premier coup d'œil comment ça se passait. Et c'est pour ça que cet exemple est déclinable à l'infini pour plein d'époques et pour plein de types de civilisations et pour plein de traditions gastronomiques et culinaires. Et donc, on peut se représenter très facilement comment la cuisine a traversé le temps et les civilisations.
Alors, on va te lire tout de suite. Hein, votre livre, c'est 250 pages. C'est un voyage de avant même 40 000 ans peut-être, je ne sais pas. Vous remontez très loin en arrière et vous allez jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez voyager au fil de différentes civilisations, on ne va pas pouvoir parler de tout. Moi, ce qui m'a frappé en vous lisant, c'est qu'on a l'impression que l'histoire de la cuisine, c'est d'abord une histoire des moyens de conservation.
Alors, effectivement, parallèlement aux premières recettes, qui elles aussi arrivent extrêmement tôt dans l'histoire, on a les premières techniques de conservation des aliments, pour la bonne et simple raison que même à l'époque où nos lointains ancêtres, une fois de plus, étaient des chasseurs-cueilleurs, des gens qui étaient itinérants, ils avaient quand même besoin d'avoir un minimum de provisions sur eux. Et donc, ils ont imaginé ce que nous, on fait encore aujourd'hui. Par exemple, la congélation. Tout le monde congèle des aliments congelés dans son congélateur. Bon, bah eux, alors ils n'avaient pas de congélateur, mais ils ont appris très tôt à placer des blocs de glace dans des failles rocheuses, et ainsi à pouvoir conserver plusieurs semaines, voire plusieurs mois, certaines pièces de viande qui étaient tirées de l'activité de chasse. Et donc, la conservation est, dès le départ, aussi importante que la recette ou que l'acte gastronomique, si on veut.
À quel moment on peut dire qu'il y a une bascule dans ces techniques ?
Alors,
pour vous, la principale, elle serait à quel moment ?
Bah, la technique de base, c'est l'invention du feu. Donc là, on est en moins 500 000 ans. Alors là, c'est très ancien. L'invention du feu, c'est l'invention de la cuisine. C'est là où tout démarre, en fait. Mais la vraie bascule, c'est intéressant que vous parliez de ressources et de provisions, parce que la vraie bascule, elle se passe quand on invente. Quand se passe cette révolution extraordinaire qui consiste à se sédentariser et à inventer l'agriculture, ce qui permet d'avoir des réserves beaucoup plus importante que celle qui résultait de l'activité de la chasse et de la cueillette. Et donc là, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, on est en moins 9000 ans avant Jésus-Christ, donc très tard dans la préhistoire, pratiquement notre époque, si j'ose dire, sur des temps très anciens, sur une époque très longue. Et donc la bascule, la vraie bascule, elle se fait à ce moment-là, quand les femmes et les hommes sont capables de domestiquer les animaux et les plantes pour en faire des réserves de nourriture perpétuelle, là, on a la possibilité d'avoir des stocks de nourriture qui ne s'arrêtent jamais. Ça ne s'est pas arrêté jusqu'à aujourd'hui, exception faite, bien sûr, des périodes de famine. Mais c'est vraiment cette bascule-là qui a tout changé. Et c'est à partir de ce moment-là que plein d'aspects qu'on peut visualiser autant que lire dans cette bande dessinée qui concernent la cuisine vont être mis en évidence. Par exemple, les repas collectifs, les banquets, le fait que la cuisine soit aussi une scène de pouvoir, c'est-à-dire certains mangent certains aliments, d'autres non. Le fait que l'inventer des femmes et des hommes s'exerce aussi depuis des temps très anciens à travers la cuisine. Ça devient la gastronomie. Donc, c'est l'art de transformer de manière magnifique et succulente certains aliments, et etc. etc. Et là aussi, on traverse les époques et les civilisations en goûtant, je dirais, toutes ces recettes qui ont traversé l'histoire.
Oui, parce que
vas-y.
Justement, vous parlez de recettes. À quel moment est-ce que c'est très tôt dans cette histoire qu'il y a une conscience du goût ? Parce que j'imagine que quand on dit recette, c'est un choix de quelque chose qui va être meilleur par rapport à un autre.
C'est une question qu'on me pose souvent. Alors, j'ai tendance à répondre deux choses. D'abord, cette fameuse bascule néolithique en moins 9000, moins 10000 avant Jésus-Christ, elle va donner aux différents groupes humains qui vont devenir des civilisations la possibilité de ressources presque infinies assez rapidement. Et qui dit ressources infinies dit capacité de combinaison multiple. Et donc, c'est sans doute de là, même si on n'en a pas la preuve, que datent les premières recettes un petit peu élaborées, et donc la gastronomie. Après, la deuxième réponse, c'est bah, on a une preuve de l'invention concrète de ces recettes et de ce goût à partir d'un moment où l'écriture est inventée. Mmh. Alors là aussi, les amateurs d'histoire savent que l'écriture est inventée à Sumer en moins 3500 avant Jésus-Christ environ. Et là, qu'est-ce qu'on trouve sur les tablettes cunéiformes? Vous savez, les fameuses tablettes d'argile sur lesquelles se trouve la première écriture de l'histoire humaine, eh ben, ce sont des recettes de cuisine. Et notamment, alors il y a une recette de cuisine et une recette que tout le monde connaît, plus ou moins, parce que tout le monde y a goûté, ce sont les recettes de la bière. La bière, c'est la première grande boisson fermentée de l'histoire humaine. Et une des premières, une des plus anciennes tablettes cunéiformes retrouvées en Irak, ça s'appelle l'Ode à Ninkashi, c'est une recette de bière. Donc, c'est bien la preuve que voici très longtemps, dans les temps les plus anciens, et au temps où on a inventé l'écriture, on était capable de coucher sur le, non pas sur le papier, mais sur la tablette d'argile, des recettes que les gens trouvaient délicieuses.
Une des choses qu'on découvre aussi en vous lisant, c'est à quel point l'histoire finalement de la nourriture et de la cuisine, c'est une histoire d'hybridation, de dialogue permanent entre les différentes zones du monde. C'est presque une histoire de la mondialisation finalement, votre histoire de la cuisine, je trouve.
Oui, alors j'ai un exemple que je donne souvent et qui m'a frappé quand j'ai fait les recherches. Non, c'est en fait c'est une recette en fait qui me traverse l'esprit. Tout le monde sait ce que c'est que le Nhoc Nam, cette petite saumure vietnamienne qu'on utilise beaucoup en cuisine asiatique, vous voyez ce que c'est?
Oui, oui.
En fait, ce sont des entrailles de poisson putréfiées avec une recette très particulière et qui donne un goût excellent à plein de plats, notamment asiatiques de nos jours. Mais en fait, cette recette, elle a d'abord été inventée il y a très 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 longtemps en Mésopotamie. À l'époque, ça s'appelait tout ça se trouve dans la BD, vous l'avez peut-être croisé. Oui. Ça s'appelait le sikou. Alors le sikou, c'était pas des entrailles de poisson, c'était plutôt des sauterelles. Une sauterelle qui était putréfiée, et c'était une sorte de condiment alors, très très célèbre, et le sikou, bah, on en parle sur tous les documents écrits, toutes ces fameuses tablettes qu'on possède, on parle beaucoup du sikou, c'est vraiment c'est la moutarde du foyer moyen mésopotamien. Bon, ensuite, le sikou il disparaît avec la civilisation mésopotamienne, mais il réapparaît avec les Romains. Et les Romains, ils appellent ça le garum. Le garum, c'est un condiment très célèbre. Donc, c'est la même recette, sauf que là, on reprend des entrailles de poisson et parfois de bête. Et on en fait, pareil, une recette extrêmement forte et qui sert à aromatiser la plupart des plats de la gastronomie romaine. Et ensuite, la civilisation romaine disparaît. Mais la recette subsiste. Et on la retrouve au Moyen-Âge sous différentes formes. Et puis, finalement, on la retrouve aujourd'hui dans le lointain Vietnam. Donc c'est la preuve que des figures imposées, comme on dit en gymnastique, de la cuisine, traversent le temps et les civilisations. Et ça, c'est assez fascinant. Ça prouve qu'il y a, comme vous l'avez dit au début, il y a une sorte de mondialisation, non pas seulement du goût, mais des techniques et des recettes.
Des produits, oui. Et alors par contre, dans la mondialisation, il y a un domaine dans lequel la France est fort, on découvre en vous lisant, c'est le restaurant. La gastronomie, le grand restaurant, c'est une invention française.
Alors oui et non. Je réponds souvent oui et non.
J'ai été trop vite. Il y a un précédent britannique.
Alors, il n'y a pas seulement un précédent britannique. En fait, comme on le raconte dans notre nouveau chapitre de cette nouvelle édition qui sert voilà, d'addendum, hein, comme on dit en bon latin, ce qu'on appelle la restauration hors du domicile, comme le fait d'aller au restaurant aujourd'hui, en fait, ça a toujours existé, même si les restaurants n'existaient pas. On appelait ça plutôt des tavernes ou des auberges ou des échoppes. Tous ces établissements ont traversé l'histoire et, encore une fois, les civilisations, on en trouvait en Chine, on en trouvait en Égypte, on en trouvait partout, en Grèce antique, dans la Rome antique. Et dans ces établissements, on pouvait se nourrir hors de chez soi. Simplement, il n'y avait qu'un seul plat à disposition, souvent, et une seule boisson. C'est vrai que la France a inventé cette chose extraordinaire, un peu avant les révolutions, au XVIIIe siècle, qui est le restaurant moderne. Et quelle est la caractéristique de restaurant, voilà, c'est exactement ça. On a une carte avec un choix multiple et de plats qui peuvent être faits pas à la minute, hein, parce qu'ils sont préparés, le client a à disposition plusieurs choix et plusieurs prix. C'est aussi l'invention du prix. Et ce qui est très drôle, c'est que la personne qui a inventé ça, qui n'est pas du tout connue, qui s'appelle Mathurin de Chantoiseau, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce nom.
En vous lisant, oui.
Moi, j'en avais jamais entendu. Voilà, en lisant. Mais moi, j'en avais jamais entendu parler avant. En fait, il n'est pas connu parce qu'il était économiste. il faisait partie de ces économistes de l'époque de Voltaire. Et donc, il a eu cette idée assez géniale de proposer aux nouveaux bourgeois de l'époque pré-révolutionnaire de venir dépenser leur argent dans cette proposition tout à fait nouvelle qui consistait à offrir plusieurs plats différents en fonction du moment de la journée où on pouvait les consommer. Et dernière chose, parce que ça c'est très important, un des tout premiers plats qui a été proposé par ce Mathurin de Chantoiseau s'appelait, c'est une sorte de pot très clair, s'appelait le bouillon restaurateur. Ah. Et le bouillon restaurateur a donné son expression, a donné son nom au mot restaurant. Le mot restaurant vient de ce plat. Le bouillon restaurateur est le père du restaurant moderne.
Et le bouillon qui continue à exister, notamment dans la capitale, la République, et il y en a quelques autres, je crois qu'il y en a dans le 6e, il y en a
bouillon très racine. À la mode, on parle d'un bouillon aussi.
Alors, le bouillon, oui, le restaurant bouillon est revenu à la mode, vous avez raison. C'est vrai, il y en a beaucoup actuellement.
Voilà, j'espère qu'on aura donné envie aux gens d'aller plus loin et de découvrir, par exemple, on découvrira qu'au Japon, eh bien, le sushi, si j'ai bien compris, c'est d'abord un moyen de conserver le poisson qui a été inventé. Ou encore, moi je suis assez fasciné par l'histoire de la panure portugaise, si vous voulez bien nous la raconter en une minute.
Ah, alors oui, ça c'est un autre exemple de mondialisation, bien avant la mondialisation. Donc en fait, les Portugais qui, comme tout le monde l'a oublié, ont conquis le monde en allant jusque à la lointaine île de Taïwan et jusqu'au Japon. Quand ces premiers missionnaires sont arrivés dans cette île très lointaine, effectivement, ils ont apporté avec eux cette tradition qui consistait à frire des poissons. Et c'est devenu bien plus tard quelque chose que tout le monde connaît aujourd'hui dans la gastronomie japonaise qui s'appelle les tempura. Les tempura, quand on aime le Japon, on connaît ces petits bâtonnets frits de viande. Et en fait, il y a un lien direct entre... ou de légumes. Et il y a un lien direct entre la friture à la portugaise de l'époque, donc là, on est au XIVe siècle, et cette tradition très à la mode, XXe siècle, des tempura. Et c'est un peu comme mon histoire de garum tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une technique qui est devenue une recette et qui, d'un bout à l'autre du globe... en fait, est resté une passion commune.
Eh bien, merci beaucoup, Benoît Sima. Je rappelle le titre de votre ouvrage avec Stéphane Doué. C'est L'incroyable histoire de la cuisine et c'est publié aux Arènes BD. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous aimez écouter de la musique quand vous êtes au restaurant, mais nous, sur Radio Campus, on écoute de la musique et on retrouve Anne-Sophie Moreau, l'autrice de Fermentation, tout de suite après.
Damn, nigga. Every time I look at you, I swear to God. Nigga, you got that nigga feet, you got that nigga body, you got that nigga long arms, fingers and shit, flat feet, big dick.
She said that I make expressions like him. My legs to my shoulders and my chin like him. Sometimes that I
C'était Tyler the Creator. La musique s'appelait Like Him feat. Lola Young.
Et vous avez appris l'anglais avec moi, Sybille.
Tout à fait. Heureusement, j'ai des bons yeux.
Et c'est tout. C'est toujours tout un plat. On est avec Anne-Sophie Moreau. Anne-Sophie Moreau, vous êtes l'autrice de Fermentation aux éditions du Seuil, le sous-titre Kéfir, compost et bactéries. Pourquoi le moisi nous fascine? Au début, je voulais pour commencer vous demander si c'était moisi, comme disent les jeunes maintenant, mais c'était peut-être pas la peine. Dans votre livre, vous êtes parti à la rencontre de notre goût pour le kéfir, kombucha, certains champignons, mais aussi pour le blob. Alors avant de rentrer dans le détail de votre livre, question de base, comment est née l'idée d'un livre pareil?
Oui. Alors bonjour, et
bonjour,
merci,
oui,
merci beaucoup pour cette invitation. Alors l'idée de ce livre m'est venue un jour où j'étais à l'aéroport de Berlin, où je vivais à l'époque, et en attendant mon vol, je cherchais une boisson pour
le vol.
Pour me désaltérer, aussi parce que je venais passer un week-end un peu arrosé, et je suis tombée à la buvette du terminal sur une bouteille de kombucha. Le kombucha qui est une boisson fermentée, voilà, qui est le résultat d'un mélange de symbiose entre levure et bactéries. Je me suis interrogée sur la présence de ce kombucha dans un aéroport, un lieu très aseptisé, très froid, très hygiéniste, ou en tout cas peu propice au développement de la vie. Et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on y trouvait du kombucha et non pas du coca, du fanta, bref, les sodas habituels.
Vous étiez à Berlin en même temps. Hein.
Oui, certes, mais on en retrouve de plus en plus un peu partout. Et il se trouve qu'en même temps, je discutais aussi par message avec un ami qui travaillait à l'époque à la mairie de Paris et qui travaillait à la généralisation du compost dans la ville. Et en fait, ces deux informations comme ça, très, très diverses, m'ont interpellée. C'est-à-dire que je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on se met de nouveau à vouloir en fait cultiver ce qu'on considérait comme plutôt dégoûtant avant, les microbes, c'est-à-dire à la fois voilà, les bactéries dans le kombucha et le moisi du compost. Et pourquoi est-ce que nous cherchons donc à la fois à raviver la vie dans nos entrailles et dans les artères de villes aussi minérales que Paris.
Vrai contraste, en fait. C'est presque le contraste qui est intéressant.
Oui, c'est-à-dire que je me suis...
Entre le high-tech d'un côté, le côté glacial, c'est un peu comme ici, alu et vert d'un aéroport ou d'une ville tout en pierre comme Paris.
Oui, et je me suis... Et en fait, j'ai commencé à faire quelques petites recherches sur notre nouveau rapport aux micro-organismes. Et je me suis rendu compte qu'il y avait comme une sorte de nouvelle passion pour les micro-organismes qui était en train de se développer, de proliférer dans notre société. Donc à la fois... En tout premier lieu, dans le domaine alimentaire, hein, puisque les aliments fermentés sont très à la mode. La fermentation a toujours existé, mais voilà, on voit des nouveaux aliments, souvent un peu exotiques, qui plaisent aux gens, à la fois aux bobos parisiens, mais aussi qu'on trouve aussi à la campagne, comme le kombucha, le kéfir, etc. Y a des festivals de fermentation dans lesquels les gens se retrouvent pour faire du pain au levain, boire des boissons fermentées, etc. Le Noma à Copenhague a été élu.
Le restaurant
a été élu meilleur restaurant du monde plusieurs années de suite. Et il est devenu aujourd'hui un laboratoire de fermentation. Ils vendent du garum hors de prix pour reprendre un condiment dont on a parlé. Bref, donc dans le domaine alimentaire, voilà, il y a vraiment toute une mode. Mais aussi dans d'autres domaines. Et je vais aller vite parce que je pense que c'est un peu moins le sujet de l'émission. Mais déjà dans l'alimentaire, par exemple, il y a des startups qui s'emploient à essayer de développer des substituts à la viande ou aux produits laitiers à partir de bactéries. Mais il y a aussi des entreprises qui essayent de faire des biomatériaux à partir de bactéries. On développe des meubles, du cuir à partir de champignons.
Du cuir de kombucha.
Du cuir de kombucha aussi. Il y a des gens qui essayent de faire des vêtements, des bâtiments même à partir de produits fermentés. Bref, voilà, il y a tout un regain d'intérêt pour les microbes, en fait. Et je me suis demandé ce que ça disait de nos sociétés, parce que cette mode, évidemment, même si on utilise la fermentation partout dans le monde et depuis des siècles, cette mode, on va dire, consciente, ce retour aux microbes, elle apparaît surtout dans des pays plutôt développés à haute technologie, plutôt aseptisés, où la pasteurisation et l'asepsie avaient triomphé depuis longtemps. Et donc la question, c'est qu'est-ce que ça dit de nous ? Est-ce que c'est parce que nous sommes des sociétés en déclin, vous voyez, les sociétés occidentales, et que non, que nous cherchons une forme de... Nous essayons de stabiliser la dégénérescence en nous intéressant aux moisies, aux microbes ou aux processus de conservation. Ou bien est-ce que nous essayons de puiser là-dedans une forme de régénération à la fois corporelle et sociétale ?
Alors, j'ai juste manqué à tous mes devoirs. J'ai oublié de dire que vous étiez journaliste, vous étiez philosophe, et que vous étiez par ailleurs journaliste et aussi rédactrice en chef. Donc, vous êtes journaliste à Philosophie Magazine. On va y arriver. Et rédactrice en chef de l'indispensable site philonomiste.fr.
Philonomiste.com, qui est notre média sur le monde du travail.
Voilà, voilà. Donc, auquel on vous invite à lire aussi, quand en buvant du kombucha, éventuellement.
Justement, vous avez parlé donc de cette mode, vous citez des pays occidentaux, etc. Et puis même, vous êtes aussi pas mal dans l'ironie au tout début de votre livre, en parlant de ces temples de bobos, etc., à Berlin. Est-ce que c'est... voilà, la fermentation, est-ce que ça s'adresse vraiment... Est-ce que c'est une mode qui se saisit vraiment seulement d'une certaine population assez urbaine, etc. Ou on peut quand même voir un intérêt pour ces développements qui se développent dans le monde entier?
Eh bien justement, moi, ce qui m'a frappé en réfléchissant à tout ça et en faisant mes petites recherches, c'est que justement, ça traverse tous les milieux sociaux. C'est-à-dire que oui, effectivement, il y a le Parisien bobo qui boit sa bouteille de kombucha, mais il y a aussi des néo-ruraux décroissants. Je parle de mes amis dans les Cévennes qui se mettent à faire du pain au levain, du fromage, etc. Mais il y a aussi, vous voyez, ce dont j'ai parlé, des start-up plutôt high-tech, qui essayent de développer ce qu'on appelle de la fermentation de précision à partir de bactéries. Voilà, il y a des grandes entreprises aussi comme Danone qui s'allient avec Michelin par exemple pour développer non plus seulement des yaourts mais des biomatériaux à partir de micro-organismes. Donc il y a tout un intérêt pour les micro-organismes qui traversent les sociétés et les milieux et qu'on retrouve dans différents pays. Voilà, pas seulement en France, c'est-à-dire aussi aux États-Unis. Par exemple, quand on vient des festival de fermentation. Il y en a aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Suisse, en Allemagne, il y en a partout. C'est absolument, enfin, justement, pas partout, mais en tout cas dans des pays, on va dire, occidentaux ou à haute technologie.
On voit bien que derrière cet intérêt pour la fermentation, il y a une promesse de santé. On y reviendra juste après. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, ça m'a peut-être échappé, mais il m'a semblé que vous ne parlez jamais du goût des produits. Est-ce que les gens qui... Enfin, les consommateurs de ces produits fermentés, ils sont aussi à la recherche de goût. Ah, est-ce qu'ils aiment ces goûts ou est-ce que d'abord ils les prennent parce que c'est bon pour leur intestin, pour leur digestion, pour la planète peut-être ?
Bien sûr. Oui, c'est une très bonne question que vous posez. Alors effectivement, je l'ai peut-être un peu moins traité dans le livre parce que ça me paraissait assez évident. Mais oui, lorsque vous discutez avec des gens, en tout cas qui sont dans le milieu de la cuisine et qui travaillent avec la fermentation, il y a notamment par exemple au Noma, il y a une recherche de diversité des goûts. Il y a l'idée qu'on va aller trouver des nuances, des saveurs plus complexes. Et je pense que c'est dû... Enfin, c'est évident que la fermentation permet de développer d'autres saveurs. Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'on fait appel maintenant à la fermentation et non pas, par exemple, à des produits exotiques. Et je pense que c'est dû essentiellement au fait que, par exemple, le Noma essaye de revenir à des produits locaux, puisqu'on a une pression quand même aujourd'hui avec la crise écologique, avec l'idée que voilà, on va devoir faire avec les moyens du bord. On ne va plus aller chercher tel ou tel fruit exotique pour relever un plat. Et donc, effectivement, même dans les restaurants à haute gastronomie, de plus en plus, on va se demander comment est-ce qu'on peut finalement jouer avec la palette des saveurs, avec des produits qu'on a et non plus aller chercher au loin.
Mais vous, par exemple, quand vous allez à un festival, je crois, à Pantin, vous n'êtes pas forcément très convaincu par les vins qu'on vous fait boire.
Oui, alors moi j'ai une plume assez volontiers un peu ironique, un peu satirique, mais toujours avec tendresse. Hein, donc oui, je me moque aussi un petit peu par exemple de la mode du vin nature. Voilà, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont obsédés par le vin nature, qui refusent absolument le vin classique. Et je me moque un peu parce qu'évidemment parfois il y a des ratés. Voilà, parfois on boit un vin nature et il y a un petit côté
ça rappe.
Ça rappe et puis il y a un petit arrière-goût de moisi cuisine. Donc voilà, on sent qu'il y a quelque chose, la fermentation parfois tourne vinaigre. Et on sent qu'effectivement, oui, chez certaines personnes, en tout cas, il y a une volonté de consommer des produits fermentés, ou en tout cas, pour raison, on va dire, aussi politique. C'est aussi, on s'identifie socialement, voilà, avec la fermentation. Elle est aussi souvent accompagnée d'un discours militant, un discours ouais, écolo, etc., qui est par ailleurs tout à fait justifié. Enfin, je veux dire, lutter contre les pesticides, etc., et essayer de retrouver une forme d'alimentation vivante et naturelle, c'est tout à fait compréhensible.
Parce que toute fermentation contrôlée, c'est bon pour la santé ? Ce sera forcément meilleur qu'un produit pas fermenté.
Alors moi, je ne suis pas nutritionniste, je suis philosophe, donc je ne pourrais pas vous répondre. Mais en tout cas, ce qui me semble intéressant, moi, la question que je me pose, c'est toujours pourquoi les gens font ce qu'ils font.
Mmh. Et, c'est un des aspects de leur discours.
Bien sûr. Et alors la raison pour laquelle on se réintéresse aux micro-organismes dans l'alimentation, c'est avant tout et pour tout parce qu'on se réintéresse à la présence des microbes en nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a eu ces dernières décennies beaucoup de découvertes ou de redécouvertes autour de ce qu'on appelle le microbiote, donc c'est-à-dire les milliards de bactéries qui peuplent nos entrailles. On a un microbiote intestinal, mais aussi cutané. Voilà, vous êtes peuplé de bactéries dans votre organisme. Et donc il y a l'idée que beaucoup de pathologies sont associées à un déséquilibre du microbiote. Donc là-dessus, il y a beaucoup de recherches qui sont encore assez balbutiantes pour certaines, mais en tout cas très prometteuses. Et on se rend compte que voilà, des pathologies comme Alzheimer ou même la dépression sont corrélées, en tout cas, avec par exemple une carence en telle ou telle bactérie. Alors ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, vous pouvez soigner la dépression en mangeant du yaourt, loin de là. Mais il y a, en tout cas, par exemple aux États-Unis, si vous allez chez Whole Foods, vous verrez des rayons entiers.
C'est un peu la chaîne de bio,
c'est un peu le supermarché bio boubou américain. Vous verrez des rayons entiers de probiotiques, donc ce sont des bactéries en gélule qui sont vendues comme étant bonnes pour la santé, pour lutter contre les symptômes de la ménopause ou pour se redynamiser ou que sais-je. Voilà, en Europe, c'est interdit de vendre des produits fermentés avec des allégations de santé. D'ailleurs, Actimel s'était fait taper sur les doigts à l'époque lorsqu'ils avaient essayé de vendre les fermentés comme un aliment santé. Donc il faut être prudent de ce point de vue-là parce que bon, il y a des bénéfices qui ne sont pas forcément prouvés. En tout cas, l'appétence pour les produits fermentés, elle relève de plus en plus d'une quête de santé, d'un équilibre microbien. Il y a l'idée que si je vais ingérer des microbes et que ces microbes vont nourrir les populations bactériennes, vont faire en sorte que j'ai de bonnes bactéries et vont renforcer mon organisme. Et je dirais que la grande nouveauté par rapport aux produits fermentés qu'on a toujours consommés, par exemple en France, à commencer par le vin ou le fromage, c'est qu'il y a, je dirais, une sorte de quête de pureté. Je voyais aujourd'hui, avant de vous rejoindre, que l'influenceur Squeezie venait de lancer sa marque de kombucha.
On est sauvés. l'influenceur le plus, je crois qu'il y a le plus de...
Un des plus influents auprès des jeunes, oui. Et c'est vrai que parmi les arguments de vente du kombucha auprès des jeunes, c'est aussi le fait que le kombucha est dénué d'alcool, ou en tout cas en contient très peu, et qu'il a aussi très peu de sucre. Donc parce qu'on a toujours aimé boire du pinard en France, mais aujourd'hui la mode, on va dire consciente pour les produits fermentés, elle relève plutôt d'une quête de pureté, voire d'une recherche d'éternité. Il s'agit finalement de conserver mon corps de la même manière qu'on conserve les aliments, en voulant s'auto-embaumer, en nourrissant les bons microbes en nous-mêmes.
Ça veut dire qu'on rêve d'avoir le destin d'un cornichon dans un bocal ?
Un petit peu, et c'est toute la question que j'essaye de poser dans ce livre. C'est-à-dire que voilà, de quoi cette mode est le symptôme ? Est-ce que nous sommes en train de cultiver la vie, la diversité du vivant ? Est-ce que nous sommes, si vous voulez, dans un élan, on va dire, positif, dans un appétit de vivre, ou bien au contraire, est-ce que c'est pas aussi, vous voyez, une forme de retrait sur soi, de peur du monde, une volonté de se protéger, de vivre aussi en vase clos, comme dans un bocal. Voilà, je parle aussi du fait que, notamment par exemple dans les communautés néo-rurales, il y a une obsession de la fermentation qu'on peut interroger, parce que, après tout, pourquoi faire fermenter des aliments aujourd'hui? À part pour... Alors effectivement, il y a la quête de saveur, mais pourquoi est-ce qu'on se remet à la fermentation alors que nous avons des boîtes de conserve, des congélos, etc. A priori, on n'a plus besoin de conserver les aliments comme on le faisait avant. Or, il y a aujourd'hui, je pense, de nouvelles peurs qui traversent notre société. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le système logistique agroalimentaire pouvait aussi être l'objet de méfiance. Il y a la peur de la crise écologique et des pénuries, et d'un effondrement possible de la société qui travaille les consciences depuis longtemps. Avec la crise du Covid, évidemment, les gens se sont rendus compte brutalement que la pénurie était possible, voilà, qu'il suffisait d'un pangolin dans les rouages de la machine pour que tout s'arrête, pour qu'on se retrouve sans rien à manger peut-être un jour. Et aujourd'hui, de plus en plus avec les tensions géopolitiques, la menace du retour de la guerre, etc., on sent qu'il y a une volonté de se rendre autonome, en tout cas chez les gens qui comme ça, font fermenter des aliments, mettre les choses en bocal. Il y a l'idée que voilà, qu'on va pouvoir survivre pendant longtemps. Et d'ailleurs, c'est aussi l'une des motivations, par exemple, de l'initiative Ferment du futur, dont j'ai parlé, parce que je parle là beaucoup des individus, mais il y a aussi des initiatives au niveau étatique. C'est-à-dire que l'État a lancé une grande initiative qui lie à la fois des entreprises et des centres de recherche pour développer une nourriture fermentée qui nous permettrait d'atteindre aussi une forme de souveraineté alimentaire, parce que justement, elle remplacerait des aliments au bilan carbone très lourd, comme par exemple la viande, etc. Et donc voilà, donc il y a une quête à la fois d'autonomie, voire d'autarcie individuelle, mais aussi nationale.
Mais oui, parce que là, vous parlez de ferment du futur, et en vous écoutant, j'ai une demi-seconde confondue. Il y a aussi ce projet incroyable de constitution d'une banque de données du microbiote où on peut, s'il y a des auditeurs qui sont volontaires, je crois qu'ils n'ont pas encore rempli leur quota.
Vous pouvez envoyer des échantillons de vos selles pour contribuer à la science, pour pouvoir cartographier en fait la vaste diversité du microbiome, c'est-à-dire en fait toutes les populations de bactériennes qui peuplent les individus et qui sont différents selon chacun.
Très bien, on va écouter un peu de musique et puis on va reparler de fermentation. C'est une musique garantie. Alors, je ne sais pas, en tout cas, je vous invite à écouter Radio Campus, puisque contrairement à ce que dit une des personnes que vous avez interrogées, qui n'écoute plus la radio parce que ça fait tourner la patte, écouter Radio Campus Paris, ça fait lever la patte. J'adorais ça. Every night when we say goodbye, I know that I can see myself as a man. When I put on that suit, I don't have to stay mute. I can talk all the time, 'cause my shoulders are wide and I'm falling like the leaves.
Child, never felt like a child. I felt like an emperor.
h 43 sur Radio Campus Paris, c'était The Last Dinner, ça tombe bien. On espère qu'il était fermenté celui-là. En tout cas, The Last Dinner, c'est le nom du groupe et c'est la blague la plus nulle de l'année. César on a TV Screen, c'était le titre du morceau. Et on est toujours avec Anne-Sophie Moreau, autrice d'un essai très stimulant aux éditions du Seuil. Ça s'appelle Fermentation, pourquoi le moisi nous fascine. On est toujours avec vous donc pour parler. Juste avant, je racontais cette blague que vous citez. Et c'est juste que pour vous donner le contexte de cette personne qui vous explique qu'elle n'écoute plus la radio parce que ça fait tourner la pâte. Alors, pour expliquer, elle fait son levain, elle fait son pain. Et visiblement, en écoutant certains programmes, le pain, ça marche plus.
Oui, ça participe un peu de ce que je disais auparavant. C'est-à-dire que, en fait, il y a parmi les motivations à fermenter aussi parfois une sorte de volonté de se retirer hors d'un monde qu'on jugeait hostile. Donc voilà. Donc là, en l'occurrence, je racontais cette anecdote. C'était une boulangère néo-rurale. Voilà, qui m'expliquait, qui ne croyait pas à l'existence du Covid, par exemple, et qui était encore moins convaincue par la nécessité de vaccins, et qui se réfugiait dans un levain qu'elle cherchait à préserver de toute attaque extérieure.
Ouais, donc là, on est plutôt dans la vision refermée sur soi-même de la fermentation qu'un moyen. Ça serait plutôt la comment vous expliquez ça, c'est Lévi-Strauss, c'est la cocotte minute, enfin c'est pas la cocotte, ben, il fait pas la publicité pour Seb, c'est plutôt la comment on appelle ça, la cuisson à l'étouffée, là.
Oui, c'est-à-dire que c'est
culture,
oui,
quoi.
ce que j'explique, donc c'est qu'il y a, voilà, il y a une tentation autarcique face à un monde hostile qui consiste à vouloir faire macérer son jardin et non plus le cultiver, comme disait Candide de Voltaire, et au-delà de ça, je m'interroge sur ce mouvement de fermeture du monde, en sachant que je donne plusieurs pistes d'interprétation sur la fermentation. Je ne suis pas en train de dire que tous les fermenteurs sont fermés au monde, mais voilà, je m'interroge sur cette pulsion fermentative qui nous anime. Et lorsque je fais référence à Lévi-Strauss, effectivement, c'est parce que Lévi-Strauss, il a réfléchi à ce qu'on appelle le triangle culinaire, ce qu'il appelait le triangle culinaire. On pense souvent au cru et au cuit chez Lévi-Strauss, mais on oublie toujours qu'il y a un troisième pôle qui s'appelle le pourri dans sa classification des différents types de nourriture. Et au pourri, Lévi-Strauss associe le bouilli et le fermenté. On reparlera du bouillon tout à l'heure, il met ça dans la même catégorie. Et Lévi-Strauss, il note que tout ce qui est rôti, par exemple, donc cuit, et relève de ce qu'il appelle l'exocuisine, c'est-à-dire que c'est en fait on fait rôtir des aliments lorsqu'on accueille des étrangers, donc à la fois des étrangers à la tribu, à la famille. Voilà, c'est plutôt une nourriture qui permet d'accueillir, d'aller vers l'autre, d'accueillir autrui. Et il dit que tout ce qui relève du pourri, du bouilli, du fermenté, ça, c'est plutôt de l'endo-cuisine, c'est-à-dire que c'est ce qu'on fait mijoter pour les siens, pour ses proches. Voilà, donc on va faire, voilà, on va plutôt faire un barbecue pour inviter des copains et on va plutôt faire un bœuf bourguignon en famille. Et alors, tout cela, non pas pour dire que forcément tous les gens qui font, qui cuisinent des bouillons ou font de la fermentation sont forcément fermés aux autres ou d'odieux racistes. Non. Mais je trouve que cela dit peut-être quelque chose de nous. Aussi, par exemple, le retour des bouillons à Paris, très à la mode, ou le fait que beaucoup de chefs se mettent à faire des bouillons et non plus des pièces montées ou que sais-je. Peut-être que cela traduit aussi voilà, une forme de nostalgie des temps d'avant, des traditions et une volonté de se réfugier dans un cocon familier, voilà, face à un monde, encore une fois, jugé hostile et objectivement hostile, il faut le dire.
On a parlé de microbiote tout à l'heure, et ce qui est intéressant dans votre livre aussi, c'est qu'on comprend bien le chemin parcouru entre un temps où de l'hygiène, où on pensait que tout ce qui était extérieur à soi était peut-être sale, et sur soi en tout cas ça devait être extrêmement propre et trop propre peut-être, et donc là justement on repasse à ce moment où on comprend que au sein de son corps il y a aussi des bactéries qui sont mauvaises ou bonnes, mais on se saisit en tout cas de cette nouvelle idée d'avoir des bactéries en soi-même.
Oui, alors il faut savoir qu'il y a eu très longtemps une méfiance, à la fois une fascination et aussi une méfiance envers les aliments fermentés, notamment envers le fromage par exemple.
C'est génial ce que vous racontez sur le fromage.
Oui, c'est-à-dire que dans la théorie des humeurs, voilà, qui a longtemps dominé notre vision de l'alimentation, on avait très peur de tout ce qui était froid et humide, parce qu'en fait il y avait l'idée qu'on risquait nous-mêmes de pourrir de l'intérieur en ingérant des aliments pourris finalement, ou en tout cas tendant vers le pourri. Plus récemment, au fin du 19e siècle, début du 20e siècle, avec la découverte véritablement des micro-organismes, des bactéries et des processus de fermentation avec Louis Pasteur, on a découvert déjà l'existence des microbes, parce qu'en fait on avait toujours fait fermenter des aliments mais on ne savait pas comment ça marchait. C'est Pasteur qui s'est rendu compte qu'il y avait des petits organismes qui permettaient cela, et donc on a découvert certes qu'on pouvait faire du vin, mais on s'est aussi rendu compte à l'époque que des bactéries pouvaient être pathogènes et pouvaient être aussi transporter des maladies. Et donc à cela a succédé une grande période plutôt d'hygiénisation à la fois de nos aliments, mais aussi des hôpitaux, des médecins, etc., pour des raisons tout à fait valables. On a à la fois voulu être plutôt dans l'aseptisation des processus médicaux et dans la pasteurisation des aliments. Et aujourd'hui, je dirais qu'il y a une sorte de retour de bâton. Mm-hmm. Aux États-Unis, par exemple, il y a des post-pasteuriens qui militent pour pouvoir manger du fromage au lait cru, alors que c'est théoriquement interdit.
Oui.
Donc il y a véritablement l'idée qu'il faut se réconcilier avec tout ce qu'on a considéré comme sale et que c'est au contraire bon pour notre santé, pour nos corps.
Est-ce que vous arrivez jusqu'à dire que justement, s'il y a presque une révolution anthropologique, où avant on était un peu ce qu'on mangeait, qu'on est aujourd'hui un peu en train de devenir ce qu'on est, on est ce qu'on digère et comment on le digère. Vous avez cette phrase que je trouve très très pertinente, très belle en tout cas, l'idée que le corps est la dernière singularité, le corps serait comme une forme de terroir intérieur.
Oui, oui, parce que je m'interroge sur cette volonté de retrouver, cet intérêt pour notamment le microbiote, c'est-à-dire la diversité de microbes qui sont des éléments étrangers à nous-mêmes. Il y a quelque chose d'assez abyssal et d'assez terrorisant là-dedans aussi, dans l'idée que finalement on est
tous
aussi...
Les gens qu'à un certain âge ont été vraiment élevés dans l'idée que c'était dangereux.
Bien sûr. Et donc il y a l'idée qu'on est en train de se réconcilier avec l'altérité en nous, et en sachant que le microbiote aussi, il nous est singulier. C'est-à-dire que vous avez un microbiote qui est en partie hérité de votre mère, de vos parents, et qui est aussi nourri par tout ce que vous avez mangé et tout ce que vous avez touché au cours de votre vie. Et donc il y a une forme d'héritage, mais aussi de singularité microbienne en chacun de nous. Et il m'a semblé que dans un monde de plus en plus aseptisé, standardisé, où on a tendance, vous voyez, à acheter les mêmes meubles, on a peur d'être remplacé par des robots, par l'intelligence artificielle, etc. De plus en plus, on se demande ce qui nous caractérise en tant qu'humain et en tant qu'individu. Et je me suis posé la question, finalement, notamment en m'intéressant à l'anecdote, assez peu ragoûtante, mais d'une étudiante américaine qui s'est amusée à produire du yaourt en utilisant comme ferment ses sécrétions vaginales. Et elle disait que, dans son anecdote, pardon pour ceux qui sont en train de manger, elle disait que ce qui l'avait intéressé, c'était que ce ferment lui était propre. Donc voilà, c'est-à-dire que ces bactéries, finalement, sont uniques. Et donc, je me suis dit, voilà, finalement, c'est comme si, dans un monde où nous sommes de plus en plus interchangeables, nous allions finalement retrouver une forme de singularité par les tripes.
Alors, on va parler de champignons quand même, parce qu'il est important qu'on parle de champignons. Alors moi d'abord, je suis un adorateur de champignons. Vous notez que le champignon est une métaphore intéressante, parce que c'est un produit finalement que ne récolte pas, c'est pas le profit de quelqu'un qui aurait travaillé avant. C'est quelque chose de spontané. Et c'est presque une métaphore anticapitaliste, et d'autant plus que vous notez, je ne sais pas si vous avez lu ce livre qui s'appelle Petite chose de Benoît Coquille chez Rivage, qui est un roman qui s'est intéressé aux champignons hallucinogènes, mais que je ne sais plus ce que je voulais dire, je suis parti dans une digression et je m'y suis perdu.
On adore les champignons, et quand on part en balade, glaner des champignons, on se perd forcément, ça fait partie du charme de cette quête.
C'était ma cueillette, et je reviens sans rien, si ce n'est que l'idée qu'avec, en tout cas, le champignon, les réseaux de champignons, il y avait peut-être une métaphore, là on parlait du corps juste avant, d'une métaphore du corps qui changerait, et là on serait peut-être en train de passer à une autre métaphore de la société. Voilà, c'était poussif, c'était laborieux, mais j'y suis arrivé.
Oui, en fait je m'intéresse à la mode aussi, en fait au regain d'intérêt pour les champignons, c'est à la fois on a aussi un microbiote intérieur, hein, sachez-le, on a aussi des champignons qui nous sont propres, mais on trouve toute une forme de nouvelle fascination pour les champignons, même si ça a toujours existé, à la fois les champignons qu'on ingère, par exemple, aux États-Unis et en France aussi, ça arrive maintenant, il y a la mode des champignons adaptogènes, voilà, les gens remplacent le café par des poudres de champignons qui sont censées être très bons pour votre santé, vous aider à être plus performant, plus résilient, voilà, le reishi, le cordyceps, et on s'intéresse aussi au mycélium, c'est-à-dire à la substance souterraine des champignons.
Et ça, c'est fascinant.
Notamment pour créer des matériaux, voilà, du cuir, des bâtiments, etc. J'en ai parlé tout à l'heure. Et ce qui m'a intéressé là-dedans, c'était aussi le modèle finalement social et politique que proposait le mycélium. Parce qu'il y a, voilà, il y a des conférences en ligne, des TEDx sur les champignons. Et ce qu'on attribue au mycélium, la capacité, par exemple, à faire en sorte que les espèces communiquent entre elles, que les arbres communiquent entre eux. Et donc, l'idée en fait que cette sorte d'internet des forêts en fait permet l'avènement d'un modèle coopératif à rebours de la vision, on va dire, un peu caricaturale du darwinisme qui consiste à dire que la nature est régie par une compétition entre espèces et évidemment toutes ces récupérations politiques qui ont été celles du 19e siècle et qu'on entend encore aussi parfois, qui consistent à dire que dans la société aussi, c'est la survie du plus fort, chacun doit se battre pour s'élever de plus en plus haut. Et donc face à ce modèle, voilà, vertical de la compétition, j'oppose le modèle horizontal du mycélium, voilà, qui va s'étendre sous terre et permettre aux espèces de coopérer. Voilà, en sachant que ce sont des thèses aussi. Il y a aussi une forme, on va dire, de naïveté aussi. Il y a des biologistes qui critiquent aussi cette vision un peu naïve d'une forêt d'Éden dans laquelle, voilà, tous les arbres se tiendraient par la main ou par les champignons. Voilà, c'est un petit peu exagéré, mais en tout cas, il me semble qu'on retrouve cette utopie aussi chez les amateurs de fermentation, notamment lorsqu'on se rend compte que, par exemple, chez les gens qui font du levain ou du kéfir ou du kombucha, il y a l'idée que le ferment ne s'achète pas, qu'on se le transmet. Oui. Vous voyez, vous allez trouver des groupes Facebook de gens qui s'échangent des grains de kéfir, mais on ne le vend pas. Pourquoi ? Parce qu'on essaye finalement de vivre, on va dire, de manière souterraine, on essaye de fomenter une sorte de révolte en souterrain, sous le régime capitalistico-logistique de la grande distribution. Là, il y a l'idée qu'on va, se mettre en retrait, essayer de survivre entre nous.
Ouais, et il y a aussi l'idée qu'on n'est pas toujours au maximum de ses possibilités, cette idée de croissance, mais on va aussi avoir une attitude plutôt économe de la vie. Et vous racontez ça, je crois, sur les réseaux de champignons qui se régulent en fait d'une façon plus, peut-être, on a envie de dire civilisée, je ne sais pas si c'est le bon mot là pour le coup. Là, je suis dans le grand mélange et
Oui, en tout cas, il y a vraiment l'idée qu'on va essayer de retrouver des formes de vie, qu'on va être dans l'humilité, voilà, qui a pour racine l'humus, la terre, le terreau, et qu'on va essayer de cultiver des formes de vie très basiques, mais qui sont résilientes. Voilà, on se rend compte, lorsque les gens parlent du levain, du kéfir, etc., les gens en parlent comme si c'était des membres de leur famille. Vous voyez, on parle d'une mère de kombucha, où il y a des sordo-sitters, c'est-à-dire l'équivalent des baby-sitters pour levain dans les pays anglophones. Donc, et moi, ce que je vois là-dedans, c'est une volonté, finalement, de cultiver ce qu'on considère comme une sorte de matrice de la vie. Voilà, dans un monde où on a extrêmement abîmé les conditions du vivant, il y a l'idée que, voilà, qu'on va finalement entretenir la petite flamme des origines de la vie, puisqu'on sait aujourd'hui que la vie sur Terre s'est développée aussi au départ à partir de micro-organismes et de bactéries, et donc on va cultiver cette flamme de la vie chacun chez soi, mais en solidarité.
Il nous reste quelques minutes avant la fin de l'émission. Est-ce que vous pensez que c'est une mode alimentaire qui est durable, qui va perdurer dans le temps, où on parle vraiment de mode cette fois-ci?
C'est une bonne question. Alors moi, je suis pas futurologue ou prospectiviste, mais je pense que ça peut perdurer pendant un moment. Pourquoi? Parce que je pense que le modèle de la fermentation, comme modèle à la fois intellectuel et modèle de vie et de société, peut nourrir les imaginaires pendant assez longtemps. Pourquoi? Parce que je dirais que le modèle et l'idéal de la décroissance ne séduit pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'idée de vivre avec moins, ça n'intéresse personne. En tout cas, ça ne suscite pas le désir. Évidemment, l'idée d'une soustraction pure de l'abondance ne fonctionne pas. En tout cas, ne parle pas aux gens. En revanche, l'idée d'aller puiser dans la dégénérescence, dans les microbes, dans ce qu'on considérait finalement comme du moisi, dans la corruption, pour reprendre les termes d'Aristote, d'aller puiser là-dedans une forme de régénération du vivant et de nos corps, je pense que ça parle aux gens.
Merci beaucoup Anne-Sophie Moreau. Je rappelle que vous êtes l'autrice de Fermentation, Kéfir, Compost et Bactéries, pourquoi le moisi nous fascine, un livre publié aux éditions du Seuil. Merci beaucoup d'être passée par notre studio.
Merci.
Merci Sybille d'avoir été avec nous.
Merci,
ce
Christophe.
Soir. Voilà, c'était Tout un plat, le magazine de Radio Campus Paris, où la cuisine se met à table. L'émission était produite par Christophe, la rédaction en chef était assurée par Sybille à la réalisation ce soir. Et vraiment, on lui dit un très grand merci, Delila, qui a improvisé sa présence ce soir. C'était déjà la dernière de la saison, car dans 8 semaines, eh bien, ce sera déjà la grille de Radio Campus Paris. Dans un peu moins d'une minute, vous retrouvez toute la formidable équipe d'Absence qui reçoit ce soir le compositeur Alex Nazarov. Bonne soirée sur Radio Campus Paris. À bientôt.